Studio Tamani, voici les informations en français.
Auditeurs de Studio Tamani, bonsoir, il est 18h et c'est l'heure de votre journal dont voici le sommaire. Les responsables de l'agriculture se disent optimistes quant à l'évolution de la campagne agricole 2024-2025, cela malgré quelques difficultés, ils l'ont fait savoir hier lors d'un point de presse ici à Bamako. L'ancien Premier ministre Moussa Mara a empêché de quitter Bamako hier lundi. Il devait prendre part au 6e dialogue pour la paix et la sécurité régionale dans le Sahel et le Sahara. Ses avocats dénoncent une violation de ses droits fondamentaux. Afrobasket 2025, les Aigles d'Âme poursuivent leur préparation. À quelques jours du coup d'envoi à Abidjan, la liste définitive des joueuses sélectionnées se fait toujours attendre. Le développement de ce titre, c'est tout de suite avec Idrissa Sakho et Sidou Daou est à la technique. Encore une fois, bonsoir. Le ministre de l'Agriculture a fait ce lundi le point sur la campagne agricole en cours. C'était au cours d'une conférence de presse. L'occasion était toute belle pour donner des précisions sur le paiement des recettes de cotonculteurs au titre de la campagne dernière et la gestion des engrais subventionnés. Deux sujets qui continuent d'alimenter les débats au sein de l'opinion publique. Les responsables de l'agriculture se disent aussi optimistes pour la campagne au regard de la physionomie des cultures. Compte rendu, Khalifa Guita.
Le président directeur général de la Compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a rassuré les cotonculteurs quant au paiement des arriérés de leurs recettes. Selon Dr Koulumege Damelé, ce sera bientôt un mauvais souvenir pour tous ceux qui n'ont pas touché leur argent.
La CMDT, depuis le 29 juin, a versé le reliquat de la totalité des frais nécessaires pour le paiement des coton-graines au niveau des banques partenaires, précisément la BNDA. Mais le programme élaboré par la BNDA pour le paiement avec les autres banques partenaires. Ce programme aussi est exécuté aujourd'hui à hauteur de 89%. Donc un certain nombre de coopératives n'ont pas encore reçu, mais des dispositions sont prises pour que dans les plus brefs délais, ils puissent avoir leurs sous.
Yacouba Traoré, président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, a salué les efforts du gouvernement. Il a aussi interpellé les autorités sur la situation des engrais.
Nous remercions le gouvernement du Mali d'avoir donné l'argent des cotonculteurs, mais la situation des engrais nous inquiète. Aujourd'hui, à Koutchala, plus de 30 000 hectares n'ont pas encore reçu d'engrais sans compter la zone cotonnière de Kita. Si on n'a pas d'engrais à temps, qu'allons-nous faire?
Le PDG de la CMDT, Dr Koulumege Damelé, reconnaît que l'accès aux intrants agricoles dans certaines zones reste difficile, notamment à Koutchala. Toutefois, il indique que de façon générale, l'approvisionnement en intrants a atteint un taux de réalisation pour le complexe coton 68%, les céréales 69% et l'urée 48%.
Sur le même chapitre, la lutte contre les acides a aussi été évoquée au cours de cette conférence de presse. Ces insectes ravageurs sont signalés dans de nombreux champs de coton à travers le pays. Selon le président directeur général de la CMDT, un plan de riposte a été dégagé pour faire face à cette présence des acides. Écoutons Dr Koulumege Dambélé, PDG de la CMDT, au micro de Khalifa Guita.
Les taux d'infestation par endroit, ça nécessite une intervention d'urgence. Précisément, les secteurs coton de Kadjolo, Niena, Kinya et vers Karangana aussi. Immédiatement, on a fait la prospection, la disponibilité des produits anti-jacides, d'abord au niveau national, ce qui nous a permis de pouvoir d'emblée de tisser des relations avec un partenaire qui avait certaines quantités, 3720 doses. Et ces 3720 doses sont déjà aux mains des producteurs à Abidjan. Nous sommes convenus sur des quantités et cette quantité serait à notre niveau au plus tard le 31 juillet. Mais les premiers camions vont déjà arriver à partir du 22-24.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le projet de charte pour la paix et la réconciliation sera remis d'un moment à l'autre au président de la transition au Centre international de conférence de Bamako. Ce document comportant un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles doit contribuer à l'éveil de conscience, à la moralisation de la République et à la construction nationale dans la paix retrouvée. Cela dit, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a été empêché de quitter Bamako hier lundi. L'information a été donnée par ses avocats à travers un communiqué publié hier soir. Selon eux, l'ancien Premier ministre sous le régime d'Ibeka devrait prendre part au 6e dialogue pour la paix et la sécurité régionale dans le Sahel et le Sahara. Les détails avec Mamadou Samasekou.
Moussa Mara était attendu au Sénégal pour prononcer le discours inaugural du 6e dialogue sur la paix et la sécurité régionale dans le Sahel et le Sahara. Une rencontre organisée par le Friedrich Ebert Stiftung les 22 et 23 juillet 2025 à Sali, peut-on lire dans le communiqué. Accompagné des membres de sa famille, M. Mara, selon ses avocats, a été approché par deux policiers. Ceux-ci lui ont signifié avoir reçu des instructions de ne pas les laisser quitter le territoire malien. L'ancien premier ministre n'a eu d'autre choix que de rebrousser chemin, explique le communiqué. Selon ses avocats, cette mesure d'interdiction de sortie du territoire a été prise sans notification officielle, ce qui est une entrave à la liberté d'expression et une violation du principe de légalité des mesures administratives, souligne-t-il dans le communiqué. Ils exigent donc la levée immédiate de toute mesure de fait d'interdiction de sortie du territoire. Toujours dans le communiqué, les avocats de Moussa Mara affirment se réserver le droit d'engager toutes les procédures juridiques appropriées pour faire cesser ces violations et obtenir réparation des préjudices subis.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
18h passées de 6 minutes, nous ouvrons notre dossier de la semaine qui porte sur l'apprentissage du Coran par les enfants pendant les vacances scolaires. Et oui, pendant ces vacances scolaires, nombreux sont les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles coraniques. L'objectif est de leur apprendre le Coran, mais aussi de leur inculquer les valeurs de l'islam. Dans ces lieux, les techniques d'apprentissage basées sur notamment le châtiment corporel diffèrent de celles de l'enseignement classique. Selon des maîtres coraniques, le fouet vise à dissuader et ainsi les enfants à suivre les cours. Quant aux parents, ils restent partagés sur l'usage du fouet pendant ces cours coraniques. Le reportage de Maïmouna Fakaba Sissoko.
Dans ces classes, assises à même le sol, des enfants récitent le Coran. Des élèves pour la plupart, ces enfants sont envoyés chaque année pendant les vacances scolaires pour apprendre des versets du livre saint. Mais dans ces écoles, l'usage du fouet est encore de rigueur. Ce maître coranique qui a gardé l'anonymat explique les raisons.
Certains enfants viennent ici. Ils sont intelligents et aiment étudier. Mais il y a d'autres pour qu'ils les apprennent, il faut les frapper.
Pour les parents, inscrire les enfants à ces cours est une façon de les transmettre des valeurs religieuses. Si beaucoup reconnaissent que la discipline est nécessaire, mais certains estiment aussi que les maîtres coraniques vont parfois trop loin.
Tout le monde aimerait que son enfant étudie, mais le frapper de telle sorte, c'est ce qui n'est pas bien. Parce qu'après, ce sont les parents qui vont ramasser les pots cassés.
Il est parti pour étudier. Si tu vois que le maître coranique le frappe, c'est parce qu'il n'a pas été sage.
Chaque enfant a sa façon d'être éduqué. Il y a certains, quand ils les chouchoutent, ils apprennent. Il y en a d'autres également, quand tu ne les frappes pas, ils ne vont pas apprendre. Donc je ne vois pas de mal à ce qu'on frappe les enfants.
Se retrouver face à un maître avec le fouet à la main, après avoir passé 9 mois dans une salle où le châtiment corporel est interdit, cela est-il sans conséquence pour l'enfant? Le pédagogue Seydou Loa répond par la négative. Selon lui, cette forme d'apprentissage peut avoir des répercussions sur l'enfant comme le dégoût d'apprentissage.
Concernant le châtiment corporel ou que les enfants subissent durant ces cours d'école coranique-là, ce n'est pas une bonne chose du tout. Ça peut avoir des impacts négatifs sur l'enfant. Déjà, ça peut le blesser. Ça peut aussi donner à l'enfant le dégoût de l'apprentissage. Ça peut faire en sorte que l'enfant n'apprenne pas aussi. Donc, le châtiment corporel est une mauvaise chose en réalité.
Les cours coraniques sont une tradition bien ancrée dans notre société et participent à l'éducation religieuse des enfants. Toutefois, il est nécessaire de veiller à la façon de les dispenser afin d'éviter des actes de violence pendant ces cours.
Page sport, les Aigles d'Ambre poursuivent leur préparation en vue de l'Afro-Basket 2025 prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août. À quelques jours du coup d'envoi, l'équipe affiche une belle forme, mais la liste définitive des joueuses sélectionnées se fait toujours attendre. Le point avec Mariam Maïga.
Deuxième au classement africain, 24e au niveau mondial, les Aigles du Mali visent clairement le titre continental et elles le prouvent sur le parquet. En match amical, elles ont signé une deuxième victoire cette fois face au Sénégal. Score final 77 à 69. Quelques jours plus tôt, elles avaient dominé la Côte d'Ivoire 70 à 52. Par ailleurs, la liste des 12 joueuses retenues n'a toujours pas été officialisée. Sur les 14 actuellement en stage, 2 devront être écartés. Et un nom fait déjà parler, celui de Mariam Alou Koulibaly. Absente de la présélection, la pivot pourrait tout de même intégrer l'effectif final. Selon des sources proches de la fédération, des discussions seraient en cours. La joueuse déjà présente à Bamako a été élue meilleure pivot du championnat espagnol et figure même dans le 5 majeur de la saison. Elle mesure 1m92. Pour rappel, lors de la phase de groupe, le Mali évoluera dans le groupe B aux côtés du Cameroun et du Soudan du Sud.
Tout de suite, vous pouvez suivre votre émission Le Grand Dialogue en rediffusion sur le regain de tension entre le Mali et l'Algérie. Mais avant, place au magazine. Le Héné, Lausonia inermis ou Djabi en Bamanankan est très prisé chez les femmes maliennes, notamment pour se faire belle, surtout lors des grands événements comme les grandes fêtes, les baptêmes ou les mariages. Plusieurs activités se créent autour de la transformation de cette plante. À Bamako, comme à Ségou ou encore à Mopti, Gao, en passant par Tombouctou, des femmes font de l'application du henné leur principal métier. En plus de se faire belle, certaines affirment gagner leur vie grâce à sa commercialisation. Un dossier signé Fatih Attara.
Nouveau marché de Médine en commune de Bamako. Ici, nous sommes précisément à la célèbre place des tatoueuses, au henné traditionnel appelé en Bambara Djabi. Et nous sommes vendredi, plus que 48 heures avant le dimanche, jour de mariage à Bamako, comme le dit le célèbre couple non-voyant Amadou et Maria. La paillote refuse du monde. Les femmes sont venues de tous les coins et recoins de Bamako pour se faire belles. Parmi elles, Marianne Welegem venue se faire tatouer les mains et les pieds avec du henné à quelques heures de la célébration du mariage de son frère.
J'applique le henné parce que j'ai un mariage. Ça rend joli les pieds et puis ça rend plus belle la femme.
Même sans accessoires et les autres parures, avec le henné, la femme est splendide, nous explique Madame Diara Aïssata Koulibaly, traditionnaliste à Sikasso. Selon elle, le Djabi est une plante bénie que les femmes applique depuis la nuit des temps.
Le henné a beaucoup de vertus. Ça fait partie de notre culture. L'application du henné est importante pour une femme mariée. Cela peut beaucoup contribuer à stabiliser son foyer. Ça fait rayonner la peau.
Sur le plan religieux, des érudits confirment la sainteté de la plante et sa beauté. Mohamed Sissé, enseignant-chercheur au lycée franco-arabe de Fombabougou, indique que le prophète, paix et salut sur lui, conseillait à ses compagnons de se soigner avec le henné en cas de blessure et aux femmes de l'appliquer sur les pieds pour paraître belle aux yeux de leur mari.
D'après Mourafia, elle dit dans un hadith que le prophète Mohammed s'est toujours soigné par le henné. Alors dans une autre version du même hadith, elle dit le prophète a conseillé à tous ceux qui l'ont consulté pour des blessures à la tête d'appliquer le henné. Comme vous le voyez chez certains hommes, et ils mettent les hennés sur leur barbe pour que les cheveux blancs prennent une autre couleur.
Beaucoup d'hommes apprécient d'ailleurs l'application du henné sur les pieds et les mains des femmes. C'est le cas de cet homme qu'on a rencontré à Medinakura. Pour lui, le henné rend la femme très belle et irrésistible.
Ça rend plus belle la femme, quoi. Parce que ça fait partie de notre culture. Permanemment, je vais voir ma femme avec du henné.
Selon certains traditionnalistes, la sacralité du henné ne permet pas aux enfants, notamment les petites filles, de l'appliquer. L'une des croyances autour du sujet est que son utilisation empêcherait à une femme d'avoir un mari au moment voulu. Une croyance bravée de nos jours, car les filles utilisent les henné au même rythme que les femmes mariées. Rencontrée au grand marché de Bamako, Sakinatou Keita est une fille de moins de 17 ans. Elle s'est fait parfaitement tatouer. Selon elle, le henné fait partie de ses accessoires de beauté.
Même si ce n'est pas la fête, j'utilise les henné parce que j'aime les henné. Mais d'autres disent que tant que tu n'es pas mariée, tu ne dois pas mettre le henné. Mais moi quand même, je me
Les femmes qui font les tatouages avec les henné se frottent bien les mains. C'est le cas de Djeneba Sissé, habitante de la cité de Balanzan. Elle applique les henné sur les pieds des femmes.
Les pieds et les mains, nous les faisons à 2500 voire 3000 francs CFA. Si c'est du henné rouge, on peut le faire à 4000 francs. Pour les mariés, c'est 5000 francs. Je peux appliquer le henné à 10 femmes par jour. Grâce à cette activité, j'ai pu m'acheter une parcelle de terre et je le construis. J'ai eu beaucoup de personnes à former.
Notons que le henné est une plante originaire des zones chaudes comme l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie centrale. Au Mali, il est produit essentiellement dans la région de Koulikoro et Kaï. Les femmes sont au premier rang de la production et la transformation de la plante.